Bonjour à tous, à toutes. Merci d'être là ce matin, Serge. Je vous souhaite à tous, à toutes, tous ceux que j'ai pas vu le jour de l'an, une bonne, heureuse année. Et surtout, le meilleur. Et le meilleur, il est devant nous. Le meilleur, c'est Christ. C'est son royaume. C'est ce qu'il va nous apporter quand il sera de retour. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il est en esprit au milieu de nous, en chacun d'entre nous, pour nous faire du bien, pour nous fortifier, pour nous consoler, pour nous encourager, pour nous aider dans notre marche, pour nous soutenir. Et ça, c'est le plus important, surtout dans ces temps difficiles. Voilà. Alors, comme l'a dit Luc, on devait chacun choisir des personnages de la Bible. Et bon, c'était pas forcément évident parce qu'il y en a tellement. Donc, moi, le premier personnage que j'ai choisi, et ça va être le seul. Le seul parce que il y a une richesse dans la vie de ce personnage qui va me demander certainement deux ou trois études de la recherche supplémentaire pour que je puisse vraiment parcourir, pas tout, parce que c'est pas possible, il me faudrait des années, sachant que j'ai pas été à l'école biblique, donc ça me demande beaucoup de travail, je me suis couché à 3 heures du matin, donc pour essayer d'avoir quelque chose de clair, et puis... sans forcément rentrer dans les détails, mais que vous ayez un peu une trame un peu de la vie du personnage. Alors, ce personnage, il s'appelle, de son vrai nom, Yeshayahu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît Yeshayahu? Ceux qui côtoient un peu le monde hébraïque, les juifs messianiques et tout ça, non? Yeshayahu, ça ne vous dit rien? Yeshayahu, la traduction, c'est Esaïe. Ça veut dire Yahweh sauve. En gros, je simplifie, hein. Yahweh sauve. C'est Esaïe le prophète. En français, dans les traditions juives, catholiques, orthodoxe, on utilise la forme d'Isaïe, Isaïe, et pas Esaïe, Isaïe. Mais chez les protestants, on prononce et on écrit Esaïe. Alors les raisons pour lesquelles j'en ai trouvé qu'une, c'est pour faire la différence entre Esaïe et Isaïe, le père de David, du roi David. Je pense. Esaïe a prophétisé d'une manière successive à quatre rois, pendant la période de quatre rois. Donc il a rencontré quatre rois quand même, hein. Peut-être cinq, Manassé, j'ai un doute, mais je pense peut-être. Mais les quatre rois qu'il a rencontré et sous lequel il a vécu, c'est Ozias, Yotam, Achaz, on peut prononcer Achaz, Ézéchias. Et ça a duré environ 60 ans. On pense que Esaïe aurait vécu jusqu'à 80 ans. Et dans le livre des Chroniques, on a un passage où Ésaïe nous rapporte l'histoire d'Ézéchias, comme quoi qu'il a vécu sous le règne d'Ézéchias. Et je crois que je dirais, entre guillemets, il a enterré Ézéchias quelque part. Donc il a vraiment une vie très bien remplie. Ésaïe, fils d'Amon. Donc il y a des spécialistes qui disent que Ésaïe, c'était vraiment un brillant jeune homme. Vraiment qui avait une connaissance. Et ça se voyait à travers ses livres, ses écrits, la manière dont ils étaient construits. Ils ont dit, celui-là, c'est pas n'importe qui. On pense aussi qu'il appartenait à l'aristocratie de Jérusalem et que même il aurait du sang royal et qu'il ferait partie des princes du royaume de Juda. Certainement qu'il y avait des liens de parenté entre ces rois. Plusieurs spécialistes aussi pensent que, donc, vu sa connaissance et son savoir, aujourd'hui, on dirait qu'il a fait l'ENA, Sciences Po. Il avait une grande connaissance. Donc on peut dire qu'il était voué à un avenir presque royal, je dirais. Donc, l'époque où il vivait, c'était une époque où on se posait énormément de questions. Des questions sur les responsabilités. Et en même temps, on avait aussi des questions, des réflexions sur les responsabilités à la fois politiques internes et politiques internationales. C'était une situation où, à l'époque du roi Ozias, c'était tranquille, c'était paisible, c'est un roi qui, on va dire, ça va, c'est bien passé. Mais après, il y a eu une période très mouvementée. Le pouvoir royal était partagé par trois hommes. Donc déjà, il y avait le grand-père, le père et le fils. Trois hommes pour un seul trône. Le roi en titre, qui régnait depuis pas mal de temps, donc, je disais tout à l'heure, c'est le roi Ozias. Il avait un autre nom, c'était Azaria. Un roi qui avait était bon, un bon roi, avec un règne prospère, ça allait bien. Mais il a commis, certainement, plein d'erreurs, mais il en a commis une. Principalement, il est allé offrir des parfums, alors que ce n'est pas du tout ni son rôle, ni sa place. Il est allé offrir des parfums sur l'autel. Et la Bible nous dit que ce rôle-là est réservé aux prêtres. C'est réservé aux prêtres de faire ça. Et en particulier, ce sont ceux qui étaient descendants d'Aaron qui devaient faire ça. Et lui, il l'a fait. Par la suite, il a été frappé d'une lèpre. Donc du coup, un roi avec une lèpre, à cette époque-là, c'était mal. Il était mal, donc impur. Il a continué à être roi, sans vraiment régner, puisqu'il était impur, donc c'était compliqué. Donc il avait un fils Jotham. Jotham qui était à l'époque régent, sans avoir pleinement la couronne, mais il était régent. Et le fils de Jotham, lui, avait un fils, Jotham, Jotham avait un fils, et son fils était Achaz, qui lui était co-régent. Mais Achaz, contrairement à son père, c'était une forte personnalité. C'était quelqu'un qui avait du caractère, une forte personnalité. C'est quelqu'un qui ne se laissait pas faire et puis déjà qui avait déjà une vue politique et qui déjà commençait à dessiner ses plans. Et surtout dans le même dans ce temps-là, il avait déjà commencé à calculer comment il allait faire et avec qui il allait côtoyer, avec qui il allait négocier, avec qui il allait. Il était déjà dans ces calculs-là. Il faisait tout en fait dans le sens contraire de son père et de son grand-père. Achaz allait dans un autre sens, sens contraire. Ça va, c'est pas trop ennuyant, là ? C'est la première fois que je fais un truc comme ça. Achaz avait donc une forte sympathie pour le très puissant voisin assyrien. Hein, c'est comme si que vous avez le premier jour, vous allez à l'école, et puis vous voyez à l'école, vous avez un qui arrive à l'école, il fait 2 mètres, il fait une grosse baraque et tout, et vous dites, ah bah tiens, il va falloir qu'il soit mon copain celui-là, c'est comme ça au moins, toute l'année à l'école, je vais être tranquille. Et Achaz, il s'est dit aussi un peu la même chose. La puissance assyrienne, si je me mets copain avec eux, je vais être tranquille, avec tous les ennemis qu'il y a autour, ça va bien se passer. Donc forcément, Achaz, il ne comptait pas sur l'Éternel, il ne mettait pas sa foi en l'Éternel. La puissance assyrienne, qui commençait donc au temps d'Ésaïe, qui commençait donc à se réveiller de plus en plus. Et la puissance assyrienne, elle avait à sa tête un monarque qui s'appelle Tiglath-Pileser. Achaz avait le désir donc de faire une alliance entre Juda et la Syrie. Et de l'autre, il y avait Israël avec les 10 tribus au nord, et au nord-est, il y avait la Syrie avec pour capitale Damas. Et au milieu de tout ça, eh ben, il y a le jeune Ésaïe qui est là, et qui devait être vraiment très préoccupé. Quand il voyait tout ça, il devait se dire, oh là là là, où est-ce qu'on va ? Donc, les Assyriens qui commençaient à prendre de la hauteur, de la puissance, ça commence à s'agiter. Et donc, ce jeune Ésaïe, donc, qui préoccupe de la situation, et les Assyriens qui commencent à prendre de la force. C'est alors, à ce moment-là, que Dieu se révèle à Ésaïe. C'est là que va commencer son ministère de prophète. On est en 739 avant Jésus-Christ. On va lire la... C'est marrant parce que dans les livres, on commence au premier chapitre, mais la vision d'Ésaïe se trouve au 6e chapitre. C'est là qu'il a commencé. On va lire donc le chapitre 6 du livre d'Ésaïe. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils s'en servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait de la maison et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente. J'ai la même chose ici, pierre ardente, braise, charbon ardent. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors « Va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux et n'entende point de ses oreilles. » Afin qu'ils ne comprennent point de leur cœur, et ne se convertissent point, et ne soient point guéris. Je dis, mais Seigneur, jusqu'à quand ? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il y a un reste encore, un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur trône, quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Une sainte postérité. Alors on va essayer de regarder un peu de plus près cette vision. La première des choses, Ésaïe a la vision de la majesté de Dieu. Tout cela se passe au moment de la mort du roi Ozias, petit roi. Pas forcément digne d'être roi. Ésaïe déclare « Mes yeux ont vu le roi, le Seigneur des armées. » Pourtant, il en a vu des rois, Ésaïe. Mais là, ici, il a dû se dire « Ah, mais j'ai pas vu le vrai roi. Là, maintenant, je l'ai en face de moi. Le vrai roi. » Celui qui a tout pouvoir, celui qui est l'autorité suprême. Mes yeux ont vu le roi. Avec la majesté et l'autorité divine, il lui est révélé aussi la sainteté de Dieu. C'est ce que proclament les séraphins. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Seigneur Les séraphins sont, d'après ce que j'ai pu trouver, sont une image de la sainteté de Dieu. Des formes symboliques. Alors, séraphin, en hébreu, se dit saraph. Saraph. Et ça veut dire brûlant, ardent. Le feu qui est le symbole de la sainteté de Dieu, cette sainteté qui consume le mal. Rien ne tient devant lui. Et le terme, continuons sur Saraph, le terme hébreu, qui désigne un serpent du désert. Les serpents qui ont une morsure redoutable. Bon, ça nous rappelle une histoire. Les serpents du désert, les saraphs, comme des vipères. Le mot saraph est utilisé dans le récit du serpent d'Airain. La plaie des serpents du désert qui a puni les murmures du peuple et leur incrédulité. Cette image symbolique nous rappelle que la présence de Dieu est redoutable parce qu'il est saint. C'est comme un feu qui brûle si on s'approche de trop près. Comme dit le gars dans sa publicité, on est mal, patron, on est mal. Ésaïe perçoit clairement le message qu'il a en face de lui. Et il va réagir en conséquence. Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel. Comme disait le chant qu'on a chanté tout à l'heure, et je tremble, tremble. Est-ce qu'on a tremblé? Il se sent indigne. Il est comme le roi Ozias, il est frappé d'une lèpre spirituelle. Il se sent sale, impur. C'est ça qui l'empêche de se tenir devant l'Éternel, devant le Dieu vivant. Et il ne va pas dire, oui, si l'Éternel se révèle à moi, c'est parce que, en fait, il a envie de se servir de moi, et donc parce que, voilà, je suis la classe, quoi. Pas vous, mais moi. Voilà. Non, pas du tout, non. Il ne va pas dire non plus, si Dieu se révèle à moi, c'est qu'il veut se servir de moi. Mais je ne sais pas comment faire, je ne suis pas compétent, je ne sais pas si, je ne sais pas ça, je ne sais pas faire comme si, je ne sais pas faire comme ça. Voilà. En fait, ce n'est pas là que se trouve en fait le problème. Mais le problème, c'est le péché. Il est là, le problème. C'est l'impureté. Ésaïe, il a tout de suite discerné. Il a tout de suite discerné ça. Il est dans l'axe. Il est dans la bonne direction. Ce qui nous rend impropres au service de Dieu, ce n'est pas notre faiblesse ou notre incompétence. On n'est jamais trop petit pour servir d'instrument entre les mains de Dieu. Dieu se plaît à nous utiliser. Il aime utiliser les choses faibles et folles de ce monde pour montrer sa gloire. Il n'y a qu'une seule chose qui nous empêche de servir le Dieu vivant. C'est le péché, l'impureté. C'est ça le vrai problème. Ésaïe en est conscient, car c'est vraiment Dieu qu'il rencontre. Il a vraiment une rencontre avec Dieu. Et là, ça change tout. Son attitude, son comportement, ses pensées, tout change. Il reconnaît aussi, non seulement il reconnaît donc son péché personnel, je suis un homme dont les lèvres sont impures, mais en plus, il reconnaît la dimension collective, je dirais la solidarité dans le péché. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Ce n'est pas un problème individuel, c'est un problème aussi collectif, communautaire, de son peuple. Et la vision nous montre quelque chose d'extraordinaire. Parce que là, il aurait pu être terrassé, brûlé, allez, top, on arrête là, dégage, allez, hop. Et non, tout de suite après, Dieu apporte un remède à cela. Un des êtres brûlants, manifestant la sainteté de Dieu, prend une braise ou un charbon ardent, selon les Écritures, ou une pierre ardente, j'ai même vu. Il prend un charbon ardent sur l'autel des sacrifices et l'applique sur les lèvres d'Ésaïe. Alors l'autel, c'est là, bien sûr, où on fait les sacrifices. Le sacrifice expiatoire qui était consumé. C'est là que se faisait la transaction. C'est là qu'était sacrifiée la victime innocente. Qui représente le coupable. La victime qui se charge et qui subissait le jugement de Dieu. Excusez-moi. Qui subissait le jugement de Dieu à notre place. C'est le principe même du sacrifice. L'autel, c'est le principe même du sacrifice. C'est ça, le sacrifice. C'est quelqu'un qui prend notre place. En prenant une braise sur l'autel des sacrifices, il y a quelque chose que le Saraf nous montre, c'est que ce sacrifice, cet autel, en fait, on le voit par la suite, il est efficace. Il nous montre l'efficacité du sacrifice que le Saraf va prendre et appliquer à Ésaïe. Pour être purifié, il faut que l'effet du sacrifice nous soit appliqué. L'effet. Il faut d'abord le sacrifice, mais en plus, il faut qu'il soit reçu personnellement. Il faut qu'il soit reçu personnellement et que cet effet va nous faire réagir, il va nous changer, il va nous faire bouger. Et le Saraf va lui dire, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Après ça, c'est l'appel au service. Cet appel qui nous rappelle à nous aussi, lorsque nous avons reçu la purification de nos péchés par l'application du sacrifice de Jésus-Christ sur nos vies. Cela a été fait non pas pour que nous restions là à rien faire, mais c'est pour que nous puissions remplir une mission pour laquelle nous avons été appelés. Dieu attend une action de la part de chacun d'entre nous, petite soit-elle, comme il a attendu une action de la part d'Ésaïe. Dieu ne lui a pas dit tout de suite, lève-toi et va. Je te dirais, non, non. Il lui a fait ça sous la forme d'une question. Comme une invitation pour qu'il y ait un mouvement d'initiative en réponse de la part d'Ésaïe. Qui enverrai-je ? Dieu lance la question. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? Ésaïe, qui est au diapason d'une manière simple et humble, va répondre, « Je suis prêt, envoie-moi. » Et oui, Ésaïe, qui t'a rendu prêt, qui t'a rendu capable ? Je suis prêt, oui, avec beaucoup d'humilité, oui, je suis prêt. Est-ce que tu as fait là ? Et puis ensuite, il lui donnera un ordre de mission. Très étrange d'ailleurs, cet ordre de mission. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez rien. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles. Si le Seigneur nous appelait à faire comme ça, voilà. Hein, et endurcir les gens. Rends insensible le cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles. Bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprennent point de son cœur, ne se convertissent point et ne soient point guéris. Je vais bientôt terminer. Et sachez que j'apporterai une suite encore avec les autres livres d'Ésaïe. Pas tous les livres, mais j'aborderai certains passages, certains livres. Alors, en 735, il y a un événement qui se produit à Jérusalem et qui a son importance. Il y a un coup d'État une révolution de palais à Jérusalem. Jotham, qui est le roi en titre, se fait renverser par son fils, Achaz. Achaz prend le pouvoir, il prend le pouvoir à la tête d'un parti pro-assyrien. Je ne rentre pas dans les détails, parce que là, il vous ennuie à fond. Sur les détails politiques et géographiques. Sur tout ce qui nous intéresse, c'est Ésaïe. Ma conclusion, c'est que Dieu choisit des gens de toutes les catégories, même des personnes de l'aristocratie, même des personnes de famille royale. Dieu reste libre. Dieu se sert des instruments selon les dons qu'il leur a faits. Mais il se sert aussi des gens très doués, comme Ésaïe ou comme l'apôtre Paul. Et pour finir, une fois qu'ils ont reconnu qu'ils sont impurs et qu'ils reçoivent la purification divine, Dieu peut se servir d'eux. Mais la mission qu'ils reçoivent n'est pas toujours une mission facile, comme ça l'est pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas une mission facile que nous avons. Chacun a sa dimension, a son histoire, a son grade, a son lieu, a son... Voilà. Donc, je continuerai encore la prochaine fois sur Ésaïe. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse à chacun. Et j'espère que j'ai été clair et que ça vous donne un peu une idée déjà dans le contexte auquel vivait Ésaïe. Et on va voir après par la suite. Encore de bonnes choses. Merci.